Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour. L'Italie épinglée par l'ONU pour son traitement des familles homoparentales. L'IA trop gourmande en énergie, mais tellement prometteuse pour la santé. Voilà l'essentiel du programme. Bienvenue dans Accent d'Europe. Si l'intelligence artificielle suscite autant d'espoir que de crainte, il y a un domaine où elle fait largement consensus, c'est la santé. Et la cancérologie en particulier. En Suède, chaque année, environ 8000 femmes sont touchées par le cancer du sein. Il est crucial pour leur survie que la maladie soit prise de vitesse et détectée le plus tôt possible. À Stockholm, l'hôpital Capio Sangoran a acquis une grande popularité. Il est le tout premier au monde à utiliser l'intelligence artificielle pour le dépistage. Et les résultats sont là. Reportage Ottilia Ferré.
Une patiente vient tout juste de faire une mammographie à l'hôpital Capio Sangoran. Karine Dembrouwer, radiologue et chef de ce service de radiologie, lui tient la porte et entre dans la salle derrière elle.
Nous voici dans le laboratoire de dépistage. C'est ici que les femmes passent l'examen. Toutes les femmes entre 40 et 74 ans sont appelées à se faire dépister tous les 2 ans en Suède.
C'est après cet examen que l'intelligence artificielle entre en jeu.
La femme vient à son examen, on génère une radio qui est analysée par l'algorithme de l'IA qui va lui donner un score de risque. Ça va de 0 à 100. 0, ça veut dire sain, et 100, c'est signe de cancer. Nous avons fixé la valeur seuil à 53,4. Celles qui sont au-dessus de ce seuil, les radiologues et les médecins discutent de leur cas ensemble.
Pour bien comprendre, il faut retourner un peu en arrière. En avril 2021, exactement. Car c'est à cette date-là qu'a débuté l'étude clinique de Karine Dembrouwer à l'origine de cette nouvelle méthode. Son étude, qui sera d'ailleurs publiée dans la prestigieuse revue médicale The Lancet Digital Health, a duré jusqu'à juin 2022 et a impliqué pas moins de 55 000 femmes.
Dans le premier cas de figure étudié, il s'agissait du protocole standard, quand deux radiologues interprètent une radio du sein. Dans le deuxième cas, c'est un seul radiologue et l'IA qui lisent la mammographie. On constate que les deux radiologues ont rappelé 1600 femmes et trouvé 259 cancers. Le radiologue et l'IA, eux, ont rappelé un petit peu moins de femmes, donc moins de faux positifs, et ont trouvé un petit peu plus de cancers.
Le combo radiologue plus IA a détecté 4% de plus de cancers par rapport à la méthode de lecture standard qui implique deux radiologues. L'IA a aussi fait ses preuves quant à la détection des cancers d'intervalle. Comme son nom l'indique, il s'agit de cancers diagnostiqués dans l'intervalle entre un dépistage négatif et le dépistage suivant. L'intelligence artificielle a aussi permis de réduire de manière significative le nombre de faux positifs.
Et nous ne voulons pas de femmes en bonne santé chez nous. Ça coûte de l'argent, mais surtout, ça les inquiète beaucoup.
Karine, ordinateur sous le bras, pousse la porte d'une nouvelle aile de l'hôpital.
C'est ici que viennent les femmes qui sont rappelées et qu'on fait les ultrasons et les prélèvements. Ce matin, par exemple, il y avait dans les couloirs une femme en pleurs. On avait demandé à la revoir après sa mammographie. Elle était très, très triste et très inquiète.
En juin 2023, la décision est prise. Désormais, ce sera officiellement un duo radiologue plus intelligence artificielle qui lira les mammographies. Et c'est une première mondiale.
On a collecté tellement de données qu'on a obtenu des algorithmes fiables. De plus, l'IA ne se fatigue jamais, que ce soit la nuit ou tôt le matin. Et elle ne va pas nous mettre au chômage, car elle ne peut pas prendre de décision, ni faire de biopsie, des ultrasons. Pour ces choses-là, on a besoin d'être humain, et pour expliquer les choses aux patientes et les rassurer si elles sont inquiètes. Il y a aussi une grande pénurie de radiologues en Suède. Une cartographie a été faite il y a quelques années, et elle montrait qu'il y avait 70 radiologues thoraciques dans le pays, alors qu'il en faudrait 55 de plus. Donc dans ce domaine, l'IA peut vraiment faire une différence.
Le manque de personnel mène très souvent à des délais de prise en charge plus longs pour les patients. L'intelligence artificielle est ici utilisée pour compléter et non pas remplacer les radiologues, comme l'explique Karine Dembrouwer. Elle estime qu'avec cette nouvelle méthode, le temps d'examen des médecins est 40% plus court.
Il n'y a plus de file d'attente désormais. L'IA a permis de dégager du temps et des tâches ont pu être transférées. On ne perd plus de temps à analyser des radios de femmes en bonne santé, par exemple. On peut se concentrer sur les diagnostics les plus avancés. L'IA n'est pas parfaite. Parfois, elle détecte des choses qui se révèlent bénignes. Elle est juste une pièce de puzzle supplémentaire. Elle n'apporte pas la vérité absolue, mais des informations en plus sur les radios.
Elle a aussi apporté un certain confort aux radiologues comme Alexandra.
Franchement, il y a juste à appuyer sur un bouton et voir ce que dit l'IA. Évidemment, je regarde la radio moi aussi, je veux voir ce que l'IA a pu voir.
Karine s'installe maintenant devant deux grands écrans dans son bureau. Pour visualiser le travail de l'IA, elle prend l'exemple de la mammographie qu'elle a réalisée ce matin. Elle clique sur le fichier en question.
Regardons, on remarque un truc ici. On fait passer l'IA dessus et non, ce ne sont pas des calcifications mammaires. Pourtant, toi et moi, on voyait bien quelque chose, mais ce n'était pas cancéreux, c'était bénin. Sur cette autre radio, le cercle que tu vois là, c'est un radiologue qui a détecté quelque chose. Voyons maintenant ce qu'en pensait l'IA. Oui, l'IA aussi a vu une anomalie. Le score est ici de 96,9, donc très proche de 100.
C'est lorsque l'IA et le radiologue ne tombent pas d'accord d'emblée que l'outil est le plus efficace.
Là, on voit qu'un humain a entouré une zone suspecte. L'IA l'a vu aussi et l'a noté 94. Mais il y avait plus bas une autre zone suspecte, bien plus grande. Et à l'œil nu, on ne voyait rien de bizarre. Mais l'IA avait bien détecté quelque chose ici. Et si on n'avait pas opéré et enlevé cette partie-là, eh bien ça aurait continué à grandir.
Un an après la mise en œuvre, Karine a constaté une augmentation de 11,3% du taux de détection de cancer et une réduction de 21,9% du taux de rappel. Mais le premier pas, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui peut le faire. Je ne le répéterai jamais assez. Faites-vous dépister, conclut Karine.
L'intelligence artificielle menace-t-elle la transition énergétique entre les avancées technologiques qu'elle va permettre et l'énorme quantité d'énergie dont elle a besoin? L'IA est un outil à double tranchant pour le climat. Et l'Irlande est particulièrement préoccupée. Le pays a lié son destin aux géants du numérique il y a 30 ans. Leurs data centers sont installés à Dublin, où l'on retrouve notre correspondante Clémence Pénard. Bonjour.
Bonjour Juliette.
Avec l'essor de l'intelligence artificielle, les annonces de chantiers de data centers s'enchaînent à un rythme effréné et ce n'est pas sans poser problème.
Actuellement, il y a 82 data centers en Irlande. 14 nouveaux sont en construction et 40 projets sont en attente d'approbation. De quoi offrir à la République irlandaise le titre de premier hébergeur européen de ces centres. Les géants du numérique injectent des milliards dans le cloud européen qui alimente l'IA. En plus d'un régime fiscal qui leur est très favorable en Irlande, ces entreprises apprécient les températures fraîches du pays qui permettraient d'éviter plus facilement la surchauffe de ces centres de données.
L'Irlande se projette donc comme un hub technologique à long terme.
Oui, et les data centers sont désormais un pilier de son économie. Ils ont généré près de 7 milliards d'euros pour l'économie irlandaise depuis 2010, mais n'ont créé que 16 000 emplois dans un pays de 5,3 millions d'habitants, comme nous l'explique Anna Daly. Elle est professeure en énergie durable à l'université de Cork.
Les data centers en eux-mêmes n'emploient pas un grand nombre de personnes et ils pourraient être situés n'importe où dans le monde, dans des endroits où l'énergie solaire est abondante.
Car par ailleurs, Clémence, cette augmentation du nombre des data centers compromet la capacité de l'Irlande à atteindre ses objectifs climatiques.
L'Irlande est devenue un dépotoir de données pour des entreprises comme Amazon et Meta. Voilà ce que déclarait la militante Rosie Leonard de l'association Les Amis de la Terre. En Irlande, une part importante de l'électricité provient encore des énergies fossiles. Or, les data centers sont alimentés par ces sources. Ils dépendent donc encore beaucoup de ces combustibles et émettent du dioxyde de carbone. Cependant, l'Irlande s'est engagée à réduire ses émissions de 40% d'ici 2030. Et s'il n'y parvient pas, le pays sera obligé d'acheter des crédits carbone à d'autres États qui émettent moins. L'Irlande pourrait devoir ainsi payer jusqu'à 20 milliards d'euros.
Et l'appétit vorace de l'IA pour l'électricité met à rude épreuve le réseau électrique irlandais.
En 2015, la consommation des centres de données représentait 5% de l'électricité totale utilisée dans le pays. En 2023, c'est passé à 21%. C'est donc presque un quart de l'électricité consommée, s'alarme Anna Daly.
Et ce chiffre devrait augmenter de manière significative d'ici 2030. Il s'agit d'une augmentation sans précédent. Depuis 2015, toute l'augmentation de la consommation d'électricité en Irlande est attribuable aux data centers. Sans eux, notre consommation d'électricité serait restée constante.
Résultat, les ménages irlandais sont confrontés à des factures d'électricité en hausse. Les prix en Irlande sont les deuxièmes les plus élevés de l'Union européenne, juste derrière l'Allemagne. Certains craignent aussi des pannes d'électricité en hiver. Ce qui a conduit en 2022, Irgrid, l'opérateur irlandais, à suspendre la construction de nouveaux centres de données près de Dublin, mais seulement jusqu'en 2028, comme nous l'explique le chercheur Dylan Murphy.
En réalité, il n'y a pas de vrai moratoire en Irlande. Le gouvernement a essayé de trouver un équilibre pour éviter d'effrayer l'industrie, tout en cherchant à protéger le réseau énergétique. Et en fin de compte, la politique actuelle de l'Irlande en matière de data center vise surtout à protéger le réseau énergétique.
Les écologistes ne font pas partie du gouvernement en place, au contraire du précédent. Les bénéfices économiques des data centers sont donc clairement repris l'avantage sur le débat environnemental et énergétique. Et l'État irlandais mise aujourd'hui sur la dispersion géographique des data centers pour soulager la pression sur les réseaux électriques locaux. Les futures constructions devraient donc plutôt voir le jour sur la côte ouest du pays.
Clémence Pénard, correspondante en Irlande, merci. Qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, du commerce ou du changement climatique, les positions de l'Union européenne sont directement dans le viseur de l'administration de Donald Trump. Mais à Bruxelles, pour tenir tête à Washington, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, va pouvoir s'appuyer sur une conseillère de choc, ex-patronne des renseignements italiens, figure de poids des plus hautes institutions de son pays. Elisabetta Belloni est une pionnière. Son portrait avec Blandine Hugonnet.
Déjà première fille à intégrer un lycée réservé aux garçons à Rome dans les années 70, Elisabetta Belloni, diplômée en relations internationales, commence sa carrière par des passages remarqués en ambassade à Vienne et à Bratislava, avant de prendre la tête de la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères en 2004, une première pour une femme. 12 ans plus tard, cette férue de course à pied est encore précurseur, nommée première secrétaire générale des Affaires étrangères. Enlèvement d'otages en Irak et en Afghanistan, rapport avec la Chine, la Russie ou en Méditerranée. En près de 40 ans, Elisabetta Belloni aura géré les plus délicates urgences et tractations de l'État italien, toujours louée pour sa discrétion et son équilibre. Un parcours qui a valu à l'ambassadrice de briser un autre plafond de verre en 2021 et d'être choisie par l'ancien chef du gouvernement Mario Draghi pour diriger les services secrets italiens. Intérieur et extérieur, charge parmi les plus prestigieuses, toujours réservées aux hommes en Italie. Surnommée Madame 007, Elisabetta Belloni aura occupé 5 ans la direction des renseignements avant de la quitter précipitamment au mois de janvier, irritée d'après les observateurs par des mésententes et des courts-circuitages de l'exécutif d'extrême droite de Giorgia Meloni. Mais la déconvenue pousse encore la diplomate vers de plus hautes sphères, à la Commission européenne, estimée pour son sens de l'État jusqu'à Bruxelles. La haute fonctionnaire italienne a été sollicitée par une autre femme, Ursula von der Leyen, nommée conseillère diplomatique en chef à ses côtés. Un ultime poste stratégique pour la sexagénaire, avant peut-être une charge au plus haut niveau à Rome pour Elisabetta Belloni, qui avait été pressentie pour candidater à la présidence de la République italienne.
C'est un record dont l'Italie ne se vante pas. Lors de son examen annuel par les Nations Unies, qui passe à la loupe le respect des droits de l'homme, Rome s'est vue adresser pas moins de 19 recommandations en janvier sur le respect des personnes LGBT+. L'une de ces recommandations concerne les familles homoparentales. Leur reconnaissance n'est pas en effet au programme du gouvernement de Giorgia Meloni. Il y a quelques mois, le Parlement a adopté une loi qui fait du recours à la gestation pour autrui un crime universel, y compris dans les pays où la pratique est légale. Problème, cette loi menace le statut de nombreux enfants et leur vie de famille. Reportage à Milan et Padoue, Cécile Debarge.
Dehors, la nuit est déjà tombée. Le froid pique les joues. Nous sommes dans la province de Padoue, en Vénétie. Rien ne semble pouvoir troubler cette petite ville enfoncée dans l'hiver. Depuis la cuisine de son appartement, Gabriele, lui, arrive toujours à la même conclusion.
C'est un peu la panique qui prend le dessus, même si on essaie de se rassurer les uns les autres. Les esprits s'échauffent et tout le monde panique. Face à l'inconnu, on ne sait pas comment réagir, on a vraiment peur. On risque des poursuites pénales.
Son compagnon Luca s'est assis autour de la grande table de cuisine pour retracer ensemble leur parcours pour avoir un enfant grâce à la GPA, la gestation pour autrui.
Il y a quelques années, nous avons commencé un parcours de GPA au Canada. Cela prend plus de temps au Canada qu'aux États-Unis, mais on a choisi ce pays parce que les femmes le font dans une démarche purement altruiste.
Le couple attend maintenant une mère porteuse disposée à porter leur embryon. La GPA n'est pas rétribuée au Canada, elle est parfaitement légale. Mais le 16 octobre dernier, le Sénat italien a adopté à 84 voix contre 58 la proposition de loi de la députée Maria Carolina Varchi, issue du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia. 20 ans après avoir déclaré la GPA illégale, le pays criminalise le recours aux mères porteuses dans les pays où la pratique est autorisée. Les familles risquent désormais de 3 mois à 2 ans de prison et une amende de 600 000 à 1 million d'euros. Personne ne sait comment cette loi sera appliquée, explique Gabriele.
Comment est attesté le recours à la GPA ? Au moment de signer les contrats, de féconder les ovules, lorsque la grossesse est en cours ?
Gabriele et Luca militent au sein de l'association Les Familles Arc-en-Ciel, qui défend les familles homoparentales depuis des années, et ce, à visage découvert. Cette fois pourtant, ils préfèrent s'exprimer avec un nom d'emprunt.
Cela concerne des aspects de nos vies qui devraient rester personnels et on nous compare à des criminels de guerre ou des trafiquants internationaux.
L'adoption de cette loi est la dernière étape d'une bataille culturelle menée par l'actuel gouvernement d'extrême droite contre les familles homoparentales. Gabriele.
La ministre de la Santé, Roccella, a aussi expliqué que les pédiatres devaient dénoncer les enfants qu'ils suivaient et qui étaient nés de GPA. Ce genre de déclaration, ça nous fait penser à une chasse aux sorcières. Le pédiatre doit te dénoncer, l'assistante sociale doit te dénoncer, les maîtresses doivent te dénoncer si tu emmènes les enfants à l'école.
En début d'année 2023, une circulaire du ministre de l'Intérieur Matteo Piantedosi a exigé que seul le parent biologique soit reconnu sur les actes d'état civil des enfants. Lorsque cette fameuse circulaire a été publiée, Maurizio se trouvait à des milliers de kilomètres de l'Italie. Ses jumeaux venaient de naître, après une GPA, dans une clinique du Missouri, au cœur des États-Unis. Un mois après la naissance, la famille de Maurizio regagne Milan.
On s'est retrouvé dans une situation assez incroyable, puisque nous avions un certificat américain sur lequel on figurait comme les deux papas, mais la mairie n'avait pas le droit de l'enregistrer. Donc pendant des mois, les enfants n'avaient pas de droit légal à être en Italie, car ils n'étaient officiellement liés ni à moi ni à mon compagnon, parce que la mairie n'avait pas pu les inscrire au registre d'état civil.
Les conséquences sont dramatiques. Sans inscription à l'état civil, les enfants n'ont pas de résidence. Ils ne peuvent pas être inscrits à la sécurité sociale, ni commencer leur vaccination, ni avoir un pédiatre ou être inscrits à la crèche.
C'était très dur, parce que quand les enfants sont aussi petits, on s'inquiète au moindre éternuement. Ne pas avoir de pédiatre ou ne pas pouvoir les vacciner, c'était particulièrement cruel à l'égard des enfants, mais aussi à notre égard.
Pour sortir de ces limbes administratives, Maurizio et son compagnon ont lancé une procédure d'adoption en avril 2023. Elle n'a toujours pas abouti. Officiellement, le père intentionnel n'a toujours aucune autorité parentale sur les enfants. Le père de famille insiste. Dans leur vie quotidienne, jamais ils n'ont été jugés ou condamnés pour leur parentalité.
À l'aéroport, les douaniers ont été adorables. Ils sont tous venus voir les bébés. C'est ça qui rend fou. Autour de nous, la société voit d'abord des enfants. Ce sont les politiques qui ne les voient pas.
Pourtant, le climat actuel et les attaques répétées du gouvernement contre les familles homoparentales le préoccupent.
Ce qui me fait vraiment peur, c'est que mes enfants grandissent dans une société où un jour, quelqu'un pourra leur dire qu'ils sont les enfants d'un crime universel, qu'ils sentent peser sur eux un stigma social et qu'ils puissent plus tard être victimes de comportements dont on parle beaucoup aujourd'hui, comme le harcèlement ou le cyberharcèlement.
Depuis l'adoption du texte, plus de 50 familles italiennes engagées dans des parcours de GPA ont demandé le soutien légal de l'association Luca Coscioni qui s'est proposée de défendre leur cause devant les tribunaux si nécessaire.
Accent d'Europe était réalisé par Théo Raison. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence.